Radio Antigone.
Merci d'être avec nous sur Radio Antigone. 18h15, c'est parti pour Vacarme. L'info qui sonne dans vos oreilles. Bienvenue.
À vous d'inventer la vie qui va avec.
Radio Antigone.
Bonsoir, bienvenue sur la radio à vif, ici Antoine Ricard, très heureux de vous retrouver pour Vacarme, votre quotidienne d'actualité qui sonne et résonne dans vos oreilles. Nous sommes ensemble, évidemment, jusqu'à 19h. Au sommaire, ce soir, de Vacarme, on va parler de ce qui se passe à Nantes avec la hausse des violences armées qui inquiète donc les habitants des quartiers populaires, des choses qu'on a pu retrouver également récemment à Tours ou même ici à Bourges dans le quartier Saint-Bonnet. Également, ce soir, à l'affiche de Vacarme, un portrait de Daniel Buren, artiste hors cadre qui a fait des colonnes, mais pas que, évidemment, vous le savez, dans la cour d'honneur du Palais Royal à Paris. Il a fait une pièce monumentale dans le vignoble de Perrassol, qui est un domaine fondé par les Templiers après la Renaissance. Donc c'est une œuvre d'art qui interroge la nature et qui s'adapte à son lieu d'ancrage, que sont les vignes. Deuxième partie de Vacarme ce soir, on reste en France avec un décryptage autour de la crise sociale dans les Antilles françaises. Les raisons de la colère. Même s'il y a eu quelques heures de calme ces derniers jours, ce n'est pas fini pour autant, évidemment. Toutes les parties de la grève lancée mi-novembre en Guadeloupe par des soignants opposés à l'obligation d'être vaccinés contre la Covid. En fin d'émission, votre point météo. Évidemment, l'agenda, même si, vu qu'on est lundi, il ne se passe malheureusement pas grand-chose, mais ça, est-ce si grave finalement? Je ne crois pas, pas tant que ça. Mais en tout cas, je suis très heureux de vous retrouver. Après tant de semaines loin de vous, c'est un véritable plaisir. Merci d'être avec nous. Et justement, pour démarrer ce premier numéro de Vacarme depuis bien longtemps, un titre local, justement, qui devrait faire plaisir à certains d'entre vous et d'entre nous. Voici Blancas, la couleur des blés. Belle soirée sur la radio FIF. Merci d'être avec nous. Ici Antoine Ricard. Ça fait bien plaisir de vous retrouver.
L'heure de la sortie a sonné. Encore une journée passée à rien penser. Courir, payer, acheter, voler. Et un jour oublier la couleur du blé. Couler trouvé décalé. Moi tu sais je n'aime que la couleur des plaies.
Radio Antigone avec Blancas, la couleur des blés, lors de l'un de leurs plus grands tubes, s'il en est, sorti dans les années 90 et qui a fait les belles heures de certaines radios, notamment WFM à Paris. Je vous invite d'ailleurs à réécouter l'émission Bar Jupiter sur nos amis de France Inter, où d'ailleurs ils se fichaient bien d'une des chroniqueuses qui disait que la couleur des blés c'était vachement bien, alors qu'en fait elle ne pouvait plus encadrer cette musique qui a été réellement un véritable tube. Radio Antigone, c'est Vacarme, merci d'être avec nous ce soir. Évidemment, nous sommes ensemble jusqu'à 19h, vous le savez, ou alors même en rediff le lendemain matin aux alentours de 12h15 après le journal, comme ce soir à 18h. L'actualité, ce début de semaine, donc ce soir, c'est donc notamment le nombre de fusillades qui se multiplient dans l'agglomération nantaise. 45 depuis le début de l'année, chers auditeurs, 12 blessés et 1 mort. C'est le triste bilan de cette hausse des violences armées quasiment liée à chaque fois au trafic de drogue. Encore le 29 septembre dernier, trois jeunes de 18 et 19 ans ont été touchés par plusieurs balles en plein après-midi. Nantes, c'est donc une ville pourtant calme d'apparence, mais où les débordements s'amplifient. C'est un phénomène qui inquiète les habitants des quartiers populaires, souvent en première ligne de ces scènes ultra-violentes. Reportage RFI, Mathieu Bonnour.
La parole se libère difficilement en bas des tours, une sorte d'omerta pesante, comme si toute confidence était synonyme de représailles. Les rares personnes prêtes à raconter leur quotidien décrivent un sentiment d'abandon.
Les quartiers, on les laisse de côté, il faut dire ce qu'il en est.
Les habitants essaient de créer, de faire confiance et de donner aux jeunes l'occasion de s'en sortir, mais c'est souvent avec du bricolage.
On se soucie pas tellement de nous, ni des jeunes.
Marion habite ici depuis quelques années, elle est investie dans une association qui tient le seul café du quartier situé sur la dalle centrale. Les élus ne viennent jamais les voir.
Des fusillades, des blessés, des morts, voilà, des choses pas très joyeuses, quoi. C'est que là qu'ils débarquent, en fait.
Dans un local juste à côté, des jeunes sont en autonomie pour gérer le lieu, mais ce n'est pas assez pour les sortir de ces situations difficiles qui poussent vers le trafic de drogue et l'argent facile.
Les jeunes, certes, peut-être parfois ils font des choses pas très catholiques, mais ça ne mérite pas d'être abattu comme ça sur le bord d'une route. C'est triste.
Cette tristesse, est-ce que bien un moment ça va prendre fin ?
Je sais pas. On espère.
Sur cette terrasse, les gens jouent au dé pour essayer de se retrouver dans un moment de convivialité.
Ça va Michel ?
Salut Mick.
Gisèle habite ici depuis plus de 40 ans. Elle va changer de rue parce qu'elle n'en peut plus de ce qui se passe en bas de chez elle.
Il y a des choses qui se sont dégradées par rapport à mon époque, à moi, quand je suis arrivé ici, quoi. L'histoire déjà de la fusillade et tout ça, ça m'a beaucoup choqué, quoi.
Elle n'arrive plus à dormir tranquillement. Les fusillades qu'elle a vues sont des souvenirs indélébiles. La présidente de l'association qui tient le café, Yasmina Capata, rappelle la solidarité entre les habitants qui se connaissent quasiment tous ici.
N'oublions pas que les jeunes qui sont impactés par ces violences ont des mamans qui sont forcément bouleversées.
Elle est inquiète pour la suite des événements. Elle se demande quand est-ce que tout ça va prendre fin.
On sent que ça monte, mais ça fait des années que ça monte. C'est pas récent. Là, il y a eu malheureusement cet événement le 29 septembre. Il y avait déjà eu des tirs quelques jours avant. Il faut se dire que maintenant, quand on entend les pneus d'une voiture qui crissent, tout le monde est un peu aux aguets. On sait qu'à n'importe quel moment, ça peut péter sur un quartier.
Elle ne parle plus de précarité, mais bien de pauvreté. Après la fusillade, elle a hésité, mais face aux situations de détresse, elle n'avait pas le choix.
Je me suis posé la question, est-ce qu'on réouvre le café ? Si on commence à s'isoler, on vit déjà avec la peur, mais là, du coup, on abandonne tout.
Ne rien lâcher, c'est son maître mot. Yasmina veut continuer à se battre pour aider les jeunes du quartier à ne pas se retrouver dans des histoires qui un jour pourrait leur coûter la vie.
Vacarme se poursuit. Dans quelques minutes, nous allons parler de la crise sociale aux Antilles. Mais d'abord, page culturelle s'il en est, ça va nous faire du bien avec Daniel Buren, qui est un très célèbre artiste et qui est pourtant assez radical, avec un processus créatif in situ, son refus du tableau et du cadre, qui a incité cet artiste français à créer dans l'espace public, où il a réalisé plus d'un millier d'installations à travers le monde. Son nom est évidemment indissociable de son œuvre vivement polémique et communément appelée les colonnes de Buren, installée dans la cour d'honneur du Palais Royal à Paris. Il a également participé au tramway de Tours, que ce soit pour l'apparence du tramway, comme les colonnes qui ceinturent l'ensemble de la ligne. Daniel Buren, donc, qui expose sa dernière pièce monumentale en ce moment dans le vignoble de Perrassol, domaine fondé par les Templiers au XVIIIe siècle, une œuvre d'art qui interroge la nature et qui s'adapte à son lieu d'ancrage, donc évidemment les vignes. Son œuvre est donc à voir dans le sud de la France, c'est un vignoble qui est réputé pour son nectar, mais qui est aussi considéré comme le plus grand musée à ciel ouvert d'art contemporain en Europe. Il répond aux questions RFI de José Marino.
Daniel Buren, bonjour.
Bonjour.
Alors, on est dans un cadre exceptionnel, au cœur des vignes, dans un lieu qui est historique, des Templiers. Là, vous avez planté des drapeaux qui vivent, qui s'animent avec le vent et qui meurent peut-être aussi avec l'usure, avec le temps.
Oui, mais ça se change, c'est ça l'avantage de ce genre de matériaux. Ça peut changer comme changer une ampoule.
Pourquoi des drapeaux ?
Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les drapeaux depuis effectivement très très longtemps. Oui, c'est presque dans l'origine de mon travail, qui a l'autre particularité d'être quasiment, sinon aussi vieux que le monde. On pense aux fanions utilisés dans chaque pays depuis que les pays existent. On pense aux fanions des armées chinoises. L'homme a beaucoup joué avec le drapeau, souvent pour des raisons un peu guerrières, ce qui n'est pas mon cas, parce qu'un drapeau qui n'a absolument aucune signification. Si vous le plantez, comme ça m'est arrivé à Paris, sur le toit du Louvre ou du Grand Palais, on se dit tout de suite, mais c'est quoi cette plaisanterie ? Il y a une question qui se pose à cause de la force symbolique de l'usage habituel du drapeau dans la ville.
Il y a un symbole fort avec ces 35 étendards quand même de toutes les couleurs.
C'est l'arc-en-ciel. La forme générale, quand tous sont poussé par le vent, sur une ligne qui fait plus de 50 mètres, il forme un énorme damier, rayé et coloré. Quand le vent souffle, il y a une musique véritablement du vent qui rentre là-dedans, ce qui est aussi pour moi l'un des intérêts de l'utilisation de l'objet drapeau. Et là, on est dans les vignes, on travaille dans la civilisation. Le vin, c'est aussi vieux que l'homme, ou à peu près. Même si ces vignes, elles ont dû être plantées, replantées, déplantées plusieurs fois, il n'empêche qu'ici, il y a toujours eu des vignobles. Et ce dessin du vignoble, la façon dont elles sont, les vignes sont plantées, etc., est une chose qui est aussi culturelle que Don Quichotte de Cervantes.
La majorité de vos créations se trouvent dans l'espace public, on est en immersion.
Une œuvre, quelle qu'elle soit, que ce soit une peinture, que ce soit un objet, n'existe justement que lorsque c'est regardé par quelqu'un d'autre. Donc bien évidemment, arriver à pouvoir immerger celui ou celle qui va venir dans le lieu, l'espace dans lequel un travail se fait, c'est une façon de pouvoir être sûr qu'on va porter attention au travail.
Daniel Buren, en tout cas, vous avez contribué à ces changements du regard des gens. On parle évidemment tout le temps de votre travail, des colonnes du Palais Royal à Paris, connues mondialement.
C'est ce que les gens connaissent le mieux. Tant de gens viennent exprès, parfois même les touristes viennent exprès pour voir ça. Aujourd'hui, tant de gens que je croise presque n'importe où dans le monde me disent « Ah, j'ai fait ça il y a 30 ans, j'ai été tout jeune avec mes parents et j'ai vu cette chose qui m'a marqué. » Et qu'un certain art d'aujourd'hui ou contemporain a un intérêt qu'il ne soupçonnait pas.
Vous êtes connu mondialement, vous avez quand même créé quelque chose de différent. Vous avez créé aussi beaucoup de polémiques. Quelle sorte d'artiste êtes-vous ? Êtes-vous un artiste conceptuel, minimaliste ?
Donc au début, j'ai été un peu mis dans le sac des artistes conceptuels. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire, si ce n'est que c'était grotesque. Comme l'art conceptuel, ça se voulait sérieux. Ce qui est sérieux, c'est pas coloré. A contrario, quand j'ai voulu accentuer l'idée de la couleur, dans un milieu où justement la couleur était totalement exclue, ce que je propose comme travail, c'est pas du tout de tomber dans ce pessimisme et cette noirceur, bien que c'est vraiment pour moi la chose qui me semble la plus évidente en ce moment du monde dans lequel on est, et pas depuis hier matin. Et donc de montrer quelque chose qui est plutôt en contradiction me semble plus intéressant que d'être dans le sens même de ce qui nous entoure. Très triste.
Vous aimez la liberté, l'espace public. Avez-vous déjà un bureau ?
L'idée d'un atelier que j'ai abandonné en, en 67. Et il n'est toujours pas repris, parce que je travaille vraiment sur place. Et donc je fais mon travail là où je suis, c'est à prendre ou à laisser.
Merci beaucoup Daniel Buren.
Merci à vous.
L'invité culture tous les soirs dans Vacarme, juste avant 18h30. C'est la deuxième partie de Vacarme qui démarre. Bienvenue si vous voulez nous retrouver à l'instant.
À vous d'inventer la vie qui va avec.
Radio Antigone.
Merci d'avoir choisi Radio Antigone et la radio à vif. Vous le savez, Vacarme, le grand retour après plusieurs semaines d'interruption. J'en profite pour saluer évidemment toute l'équipe de la radio, évidemment Constance, Bérénice, Enzo, vous retrouvez chaque week-end dans la case du week-end évidemment. Matt qui va préparer un nouveau rendez-vous très bientôt, vous allez être sur les fesses, clairement ça va tellement ça va être bien. Xavier, vous bouffez, bref toute notre petite bande qui vous permet de vous offrir une radio qu'on espère que vous aimez, Vacarme, votre quotidienne d'infos. Tous les soirs 18h-19h et on rediff le lendemain de 12 à 13h après. Vous le savez, le journal de RFI, le radio journal de la rédaction. Dans quelques instants, on va aller aux Antilles, mais avant cela, nouvelle page musicale dans Vacarme avec un groupe québécois, soi-disant québécois, enfin soi-disant croate, serbe, Lo-Fi Lovebot avec Song for Alien. En fait, c'est une journaliste et un de ses amis, Catherine Pogonat, pour ne pas la citer, qui ont créé ce projet de groupe Lo-Fi au Québec francophone. C'est pas mal en vrai, c'est pour ça qu'on vous fait écouter ça tout de suite dans Vacarme sur Radio Antigone. Belle soirée, merci d'être avec nous. Lofi Love Bot, Song for Alien à l'instant sur la radio à vif dans Vacarme. Merci d'être avec nous, nous sommes ensemble si ma voix tient jusqu'à 19h. On passe donc au décryptage de cette soirée avec le mouvement de contestation qui se poursuit dans les Antilles françaises en attendant d'éventuelles négociations avec le gouvernement en métropole. Vous le savez, la Guadeloupe et la Martinique sont actuellement le théâtre d'une crise sociale marquée par une irruption de violence. Tirs d'armes à feu contre des pompiers, des policiers, barrages entravant l'activité des deux îles, véhicules brûlés, incendies et autres pillages. Donc c'est Guadeloupe et Martinique, vous le savez. Mais leurs revendications dépassent désormais le cadre de la politique sanitaire menée par Paris et s'étendent à des problématiques économiques et sociales. Est-ce que cette crise était prévisible? Quelles sont les causes profondes et jusqu'où peut-elle aller? Décryptage avec Pierre Audin, qui est politologue, enseignant à l'Université des Antilles en Guadeloupe et écrivain, ainsi que Hugues Laventure, directeur de la rédaction du média Outre-mer 360, autour de Clémentine Palowski. Dans Vacarme sur Radio Antigone. A tout de suite.
Bonsoir Luc Laventure.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le directeur de la rédaction du média Outre-mer 360. Et nous sommes également en ligne avec Pierre Audin. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes enseignant en sciences politiques à l'Université des Antilles en Guadeloupe, auteur de Profitation, lutte syndicale et anticolonialisme en Guadeloupe et en Martinique, paru aux éditions La Découverte. Alors Luc Laventure, je me tourne vers vous. Tout est parti de l'opposition au pass sanitaire et à l'obligation pour les soignants d'être vaccinés contre le Covid-19 avant que la contestation s'étende à des revendications plus économiques et sociales. D'abord, pourquoi un tel rejet de l'obligation vaccinale pour les soignants?
Alors, on va revenir sur les causes profondes. En réalité, j'allais dire que cette obligation fait partie d'une mauvaise méthode, d'une mauvaise pédagogie. On a voulu appliquer à des territoires qui ont des cultures totalement différentes, des cultures différentes de l'Hexagone et des cultures différentes entre elles, un schéma qui avait déjà du mal à passer au niveau de l'Hexagone. Regardez ce qui se passe chez les Bretons, regardez ce qui se passe chez les Ch'tis dans le nord de la France.
Effectivement, et regardez ce qui se passe. Il y a aussi dans certaines régions françaises absolument une défiance vaccinale qu'on retrouve.
C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, vouloir appliquer sans détour le même schéma à des gens qui ont une esthétique de la relation à la mort, de la relation à la vie, de la relation aux médicaments, à la fois une esthétique et une sorte de côté environnemental avec ce qu'on appelle les rimes de rasier, etc. Eh bien, je crois que c'est une façon d'arriver en frontal qui n'a pas été particulièrement bénéfique. Mais on peut balayer cela d'un revers de main en disant la chose suivante. Cette crise sanitaire est devenue très très rapidement, je pense que c'est un faux problème, la crise sanitaire. La crise sanitaire, malgré ce manque de pédagogie, a révélé un problème plus profond, qui est une crise sociale et surtout une crise identitaire.
Alors Pierre Audin, cette crise sociale et identitaire qu'évoque Luc Laventure, à quel moment est-ce qu'elle a commencé?
Moi, je rejoins un peu Luc Laventure sur la question des aspects culturels de ce qui se passe ici. Après, je voudrais quand même souligner deux choses. Il faut se rappeler un peu, regarder au-delà de la contestation et de ce qui est avancé spontanément par les acteurs qui se mobilisent, quelle a été l'attitude de l'État. Depuis la seconde vague, il y a le gouvernement et l'État français qui ont incité les Français dans leur ensemble à retourner travailler. C'est-à-dire qu'il y a eu une priorité de l'activité économique et donc une injonction un peu individuelle et autoritaire à cela. Et dans un deuxième temps, il y a eu la question de la sécurité sanitaire et de prendre soin des autres et tout ce qui est normalement accompagné par le volet de l'État social. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la situation en Guadeloupe, quand on est confronté à des taux de chômage tels que ceux que connaît la population, il y a plus d'une personne sur trois qui est au chômage, il y a plus d'un jeune sur deux qui est au chômage. Et par ailleurs, quand on sait les difficultés que rencontrent les services publics ici, ce sont deux arguments qui ne prennent pas. Donc, quand il y a des mesures de sanctions qui sont prises, comme elles ont été prises en novembre, alors qu'il y avait déjà
Pierre Audin, à la suspension des soignants non vaccinés?
Voilà, la suspension des soignants non vaccinés, c'est vraiment cet élément qui a mis le feu aux poudres. Parce qu'il y a une incompréhension totale par rapport aux arguments qui ont été développés dans le cadre de la politique sanitaire et qui sont perçus ici comme particulièrement punitifs, particulièrement autoritaires. Alors que, bon, comme dans tout un tas d'autres territoires, la Guadeloupe avait été confinée lors de la première vague et grosso modo, il y avait eu une discipline collective qui correspondait à ce qu'on avait observé à ce moment-là dans l'Hexagone. C'est la confiance envers le gouvernement et l'État central s'est progressivement érodée et le dialogue s'est progressivement rompu. Ce qui fait aujourd'hui aussi que quand on regarde la situation, il y a effectivement tout un tas de problématiques socio-économiques, culturelles et identitaires qui viennent se greffer sur cette défiance anti-vaccinale.
Alors justement, sur cette dimension identitaire, je voudrais qu'on écoute le témoignage d'une jeune femme gréviste. Elle est guadeloupéenne et vous allez l'entendre, elle nourrit un profond ressentiment contre la métropole.
Moi, je suis une Antillaise qui a vécu en France, qui a grandi en France. Moi, on m'a fait toujours comprendre que je n'étais pas chez moi en France. Alors aujourd'hui, depuis 10 ans, je suis en Guadeloupe, je suis chez moi. Et j'estime que j'ai baissé la tête suffisamment pendant 40 années. Je ne vais pas baisser la tête maintenant. Je peux être la dernière ici à ne pas être vaccinée. Je ne me vaccinerai pas.
Luc Laventure, je vous vois hocher la tête en écoutant ce témoignage. Qu'est-ce que vous en dites? Comment est-ce que vous l'analysez? Est-ce que finalement cette dimension identitaire, ce ressentiment vis-à-vis de la métropole, il est spécifique au territoire français ultramarin?
Regardez par exemple ce qui se passe dans le sud-est ou dans le sud-ouest de la France. On a quand même cette même crispation identitaire.
Crispation, pardon de vous couper, mais l'histoire n'est tout de même pas la même. Là, on parle quand même de société.
Mais c'est ce que j'allais vous dire. C'est ce que j'allais vous dire. Déjà, sur un territoire rétréci hexagonal, vous voyez déjà les différences de réaction. Donc, imaginez à des territoires qui sont à 7000, 8000, 12 000 kilomètres, que ce soit la Nouvelle-Calédonie ou encore l'océan Indien avec la Réunion et Mayotte et les Antilles dans l'Atlantique, forcément les réactions sont totalement différentes. En réalité, je pense que cette crise identitaire est un révélateur, voire un prétexte à faire ressurgir un malaise profond. La dame qui vient de dire la chose suivante, j'ai baissé la tête. D'abord, je pense que c'est une mauvaise chose de dire qu'on a baissé la tête. Ça fait 40 ans que je suis à Paris, je ne baisse pas la tête. Et au contraire, il faut prendre les choses à bras le corps et regarder les choses en face, et regarder les yeux dans les yeux.
Évidemment, c'est propre à chacun.
Ah, tout à fait. Mais elle traduit une véritable souffrance. Et elle a raison. Et je la comprends. Et je partage cette souffrance.
Mais cette souffrance qu'il y avait eu... que vous évoquez, Luc Laventure, elle est liée à quoi? C'est quoi? C'est un sentiment d'abandon de l'État vis-à-vis
non,
de ces territoires?
Non, c'est trop facile de dire abandon de l'État. Je pense qu'il faut arrêter de dire que l'État est responsable. Nous sommes tous co-responsables. C'est vrai que globalement, on peut dire qu'il y avait eu deux marqueurs qui avaient alerté les choses. Déjà en 2009, avec une grève qui a duré plusieurs semaines, qui a marqué la Martinique, même plus que plusieurs semaines, plusieurs mois. Et puis 2017 en Guyane, il y a eu deux marqueurs très très profonds. Et on a l'impression que malgré ça, rien n'a bougé. On a pris le prétexte de la vie chère, mais en réalité, de façon sous-jacente, il y a cette question d'identité qu'on ne nous reconnaît pas. Et puis il faut dire également que les choses depuis 30-40 ans ont été figées du point de vue des idées. Et c'est vrai que la parole publique, la parole de l'État a du plomb dans l'aile, c'est le moins qu'on puisse dire, avec la parole de l'État qui s'est discréditée avec le chlordécone, avec les sargasses.
Le scandale sanitaire, effectivement, lié à l'utilisation, auditeurs sur le continent africain, mais c'est un scandale sanitaire, effectivement, qui a couvert les années à peu près 70-90, et on s'est rendu compte que cet insecticide qui était utilisé dans les bananeraies était en fait très cancérigène.
Absolument, mais même la façon de gérer, par exemple, les essais nucléaires en Polynésie. Et je reviens à l'expression de douleur de la dame qui vient de témoigner en disant « j'ai baissé la tête pendant trop longtemps ». C'est quand même grâce aux Outre-mer que la France quand même a une dimension internationale. Les essais nucléaires qui ont... Et on a payé l'impôt du sang, si je puis dire, dans le Pacifique. On a payé l'impôt du sang pendant la Seconde Guerre mondiale dans les Antilles. Donc nous ne sommes pas des Français par hasard, comme d'autres personnes qui sont nées dans l'Hexagone. Nous avons vraiment payé l'impôt du sang. Et on a l'impression que effectivement nous sommes des Français marginaux. Et cette crise identitaire montre notre volonté non seulement d'exister, mais d'avoir notre place pleine et entière sur l'échiquier national et de porter ses couleurs sur le plan international.
Alors justement, Pierre Audin, quelles sont aujourd'hui très concrètement les revendications des protestataires et des grévistes ? Au-delà de la colère, hein, bien sûr, contre l'obligation vaccinale pour les soignants et les pompiers.
Alors, ce n'est pas au-delà, hein, parce que la première revendication quand même des gens qui se mobilisent, c'est la réintégration immédiate à la fois des soignants et des pompiers qui ont été suspendus pour leur opposition au pass vaccinal. Parce que ça, c'est un peu le préalable à toute discussion quand on écoute les syndicats et ce qu'ils ont, la façon de s'exprimer. Après, il y a aussi tas de revendications sur une vraie concertation autour d'un plan d'embauche massive pour la jeunesse ici, qui veut dire plan d'embauche massive, mais aussi pour la formation, parce que quand on parle des jeunes qui sont au chômage ici, on parle de jeunes qui sont aussi pas scolarisés, qui sont pas formés à un métier, en adaptation avec les besoins spécifiques qui se développent ici, que ce soit au niveau des services publics, que ce soit au niveau des activités touristiques, que ce soit au niveau de l'environnement, il y a tout un tas de chantiers qui s'ouvrent. Et ça, les syndicats et un certain nombre d'acteurs politiques aussi le portent très clairement. Et puis, il y a quand même ce dossier brûlant aussi en Guadeloupe, qui est celui de l'accès à l'eau potable, parce qu'il faut rappeler qu'il y a un foyer sur trois qui connaît des coupures extrêmement régulières d'accès à l'eau, et qu'on attend toujours de ce côté une intervention volontariste de l'État, en concertation avec les élus, avec les populations locales. Vous voyez, c'est tout cet ensemble de revendications, c'est un peu ce qui se dessine prioritairement pour la Guadeloupe, et c'est ce qui est porté aujourd'hui par le collectif LKP qui a repris le chemin de la lutte, puisque c'est déjà lui qui était présent en 2009, et puis par tout un tas d'autres acteurs du mouvement social guadeloupéen qui l'ont rejoint sur cette base-là.
Et avec, on le comprend bien, effectivement, des problématiques qui touchent directement au quotidien des populations.
Décryptage sur RFI. Clémentine Pavlotsky.
Alors, je voudrais qu'on s'intéresse à présent avec vous à la réponse du gouvernement français. Mais d'abord, je vous propose qu'on écoute cet extrait de la déclaration du Premier ministre Jean Castex. C'était lundi.
Je condamne avec la plus extrême fermeté ces violences. Les auteurs sont et continueront d'être arrêtés et jugés. Je le dis clairement, rien ne peut justifier de tels actes servent de la crise sanitaire comme d'un prétexte. Il s'agit surtout désormais d'agresser et de piller. J'ai donné toutes les instructions pour que l'ordre républicain soit rétabli et j'ai envoyé sur place des forces supplémentaires. J'en appelle désormais au calme et à la responsabilité.
Alors effectivement, Paris a envoyé en renfort des renforts du GIGN et du RAID. Comment ces renforts sécuritaires, Luc Laventure, ils ont été perçus en Guadeloupe et en Martinique ?
Alors je ne peux pas le dire parce que je suis très lâche, je ne dirai pas, je ne sais pas comment ça a été perçu en Guadeloupe et en Martinique, mais je pense que le problème est mal posé. Forcément, il y a des émeutes, forcément il y a des pillages. Il est normal qu'on fasse des mouvements de menton en disant la chose suivante, je reprends l'expression, l'ordre républicain doit régner. L'ordre républicain doit régner, le ministre de l'Intérieur Darmanin, qu'il s'agisse de Marseille, d'Agen ou d'ailleurs, envoie les troupes, envoie effectivement la police pour pouvoir remettre de l'ordre. Mais je pense que je reviens à ce qui se passe aux Antilles, en Guyane et un petit peu ailleurs. Je pense qu'en réalité, le problème, c'est l'absence de souffle, l'absence de perspective qu'il y a. Pierre Audin l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que quand on voit le taux de chômage...
Des absences de perspective pour la jeunesse, notamment.
50% de jeunes au chômage pour les moins de 25 ans, contre 15% pour les gens de l'Hexagone. C'est insupportable. Et cette absence de souffle, il faut que nous puissions, à un moment donné, tous le créer, régénérer les choses. Moi qui suis un vieux... qui a connu, non pas les deux dernières guerres mondiales, n'arrivez pas, s'il vous plaît, je dis la chose suivante. On a connu au cours des 50 dernières années, il y a 70 ans, la départementalisation, l'assimilation. Ensuite, il y a eu Césaire qui a poussé ce cri du nègre fondamental. Ensuite, il y a eu Glissant avec l'identité rhizome. Il y a eu Confiant, ça a continué. Et puis, brusquement, on a l'impression que tous ces... que tout s'est arrêté, tout s'est figé, et il n'y a pas de perspective. Il n'y a pas de perspective. Et c'est d'autant plus vrai que effectivement les jeunes, sur le plan, ils sont dans l'anxiété totale. C'est-à-dire pas de travail, donc obligés de s'expatrier, si je puis dire, pour aller chercher du travail et ne pas pouvoir rentrer parce que on est sur une économie à la fois fragile et post-coloniale qui est verrouillée. Donc malgré l'inventivité de ces jeunes,
Ils
se retrouvent dans l'anxiété la plus totale.
Voilà, les blocages sont totaux et il y a peut-être effectivement cette idée de plafond de verre un petit peu au-dessus de leur tête. Pierre Audin, je vous repose la question. Du coup, est-ce que l'envoi de ces renforts du GIGN et du RAID a été perçu de manière négative sur place ou est-ce que c'est au contraire un non-sujet ?
Non, moi j'ai l'impression que ça a été perçu de façon très négative, parce que y compris pour les personnes qui réclament plus de sécurité ou une partie des gens qui ne soutiennent pas le mouvement et qui s'y associent pas ou qui se dissocient de toutes les violences qui peuvent être commises, ça soulève quand même un imaginaire, si vous voulez, de la répression mobilisée depuis l'extérieur. Bon, je me bornerai aussi à commenter le fait que depuis plusieurs années maintenant, on se rend bien compte qu'il y a eu une réponse de plus en plus répressive de la part des autorités vis-à-vis des manifestations du mouvement social et que finalement, il n'y a pas forcément d'étonnement parce qu'on s'est bien rendu compte que c'était quand même la réponse à une partie de la demande sociale qui était à laquelle nous avait accoutumé ce gouvernement. Mais je peux dire que depuis ici, c'est d'autant plus perçu comme quelque chose de dangereux en fait, parce que on a l'impression que loin de favoriser une désescalade, c'est quelque chose qui ravive un imaginaire de la répression, comme ce qui a pu se passer en mai 67 en Guadeloupe, en février 74 au Chalvet, et même la dernière fois en 2009, où il y a un manifestant qui est mort, Jacques Binot, et où
Absolument.
Il y a eu des moments de tension et d'affrontement.
Pierre Audin, est-ce que vous...
Pour toutes ces raisons qu'à mon avis, c'est mal perçu.
Pierre Audin, est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'on peut parler d'un climat insurrectionnel dans les Antilles françaises, ou c'est une expression qui vous semble un petit peu caricaturale?
Non, c'est une expression qui me paraît en partie caricaturale. Mais vous voyez, là, je suis en train de vous appeler depuis la place de la Victoire à Pointe-à-Pitre. Bon, j'ai pu circuler entre les barrages, j'ai pu me rendre sur des lieux de blocage ce matin. Il y a effectivement des moments de tension sur les barrages, notamment entre les jeunes et les forces de l'ordre.
Et les forces de l'ordre,
effectivement,
oui.
Il y a des jeunes qui veulent en découdre, il y a des jeunes qui sont armés, il y a des jeunes qui s'adonnent à des moins jeunes aussi qui s'adonnent à des pillages la nuit venue. Mais on ressent pas pour autant un climat d'insurrection ou de guerre civile, parce que la majorité de la population guadeloupéenne, qu'elle se retrouve ou non derrière le LKP et dans ses revendications, elle n'aspire pas fondamentalement à ça. Elle a plutôt les yeux rivés sur les négociations. Donc oui, il y a des appréhensions par rapport à ce qui peut se passer, il y a des appréhensions par rapport aux violences, il y a des appréhensions par rapport à la répression, mais le climat est ni à l'insurrection, ni à la guerre civile véritablement.
Alors justement, vous parlez des négociations, une rencontre est prévue ce jeudi entre les autorités et les syndicats martiniquais, et puis en Guadeloupe, plusieurs élus doivent aussi participer à une visioconférence avec le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu. Luc Laventure, est-ce que vous pensez que ces discussions peuvent permettre de faire retomber la tension?
Oui, je pense que le moment de crispation va retomber. Et je pense que les ponts vont être remis. Je discutais de cela avec... Je partage totalement l'analyse de Pierre Audin avec un de ses collègues et confrères qui se trouve à la Martinique, qui s'appelle Patrice Bellune. Patrice Bellune est le secrétaire général de l'UNSA aux Antilles, et effectivement on partage le même sentiment que il faut non pas gérer les choses comme on les a gérées en 2009 en disant la chose suivante: il y aura un petit peu, on va mettre 150 200 euros de plus pour les bas salaires, etc., etc., mais rebattre les cartes et donner aux gens une vraie perspective qui leur permet de donner du souffle.
Merci beaucoup, Luc Laventure, directeur de la rédaction du média Outre-mer 360. Merci également à vous, Pierre Audin, enseignant en sciences politiques à l'Université des Antilles en Guadeloupe. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Profitation, lutte syndicale et anticolonialisme en Guadeloupe et en Martinique. C'est un livre paru aux éditions La Découverte. Très belle soirée à tous.
Voilà pour ce décryptage. Évidemment, on y reviendra tout au long de la soirée des jours qui viennent sur Radio Antigone dans nos différentes éditions et également dans Vacarme. Un petit coup d'œil à vos prévisions météo de ce mardi Le matin, il va faire frais, il va faire très très frais, mais il va faire plutôt beau, profitez-en. Éclaircies prévues toute la journée, maximum 5 degrés, alors que la soirée sera peut-être placée sous le signe de quelques pluies, alors que mercredi sera placé, quant à cette journée, sous le signe de la pluie des averses orageuses. Dans quelques instants, sur Radio Antigone, la radio à vif, le radio journal de la rédaction. Vacarme revient demain aux alentours de 18h, 18h15, vous le savez. Et sinon, en rediff de 12 à 13h après l'édition de la mi-journée. Ici Antoine Ricard, au nom de toute l'équipe. Très bonne soirée à tous.
Tous les podcasts de Radio Antigone sont à retrouver sur radioantigone.fr et toutes les plateformes de podcasts.